C'est important de se rappeler aujourd'hui que c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Phobie qui signifie peur. Donc, peur de l'homosexualité, des homosexuels, des gays, peur également des trans. Et ça, sincèrement, je vous avoue qu'en 2021, j'ai de la difficulté à comprendre encore ce genre d'attitude. C'est pour ça que j'ai envie de contribuer à ce que tombent les barrières, s'il en existe encore. Visiblement, ça semble être le cas, puisque la Fondation Émergence, vise justement à dire à quel point il faut aujourd'hui lutter contre l'homophobie, la transphobie, nous dit qu'il y a une hausse des violences envers les personnes LGBTQ+, à travers le monde, qu'il faut dénoncer ça. Et effectivement, et je me demandais, au Québec, est-ce pareil? Parce que on s'en parle souvent, vous et moi, j'ai régulièrement l'occasion de parler de ce sujet-là. Encore dernièrement, je parlais avec Debbie Lynch White de sa nouvelle série fabuleuse que vous pouvez voir à Moi et compagnie, où elle rencontre des gens qui expliquent leur coming out. Puis je trouve que c'est tellement des messages inspirants. Je me dis aujourd'hui, en 2021, quand on est témoin d'un acte d'homophobie ou de transphobie, est-ce qu'on n'a pas un peu la responsabilité d'agir? Puis de dire, tu sais, t'entends quelqu'un qui dit à l'autre, qui prononce des mots qu'on a de la misère à mettre dans notre bouche, là, le mot F, par exemple, il y en a encore. Là, je vais le dire juste pour le but de l'exercice, là, mais il y a encore beaucoup trop de gens qui se font dire, qui utilisent le mot FIF. Ça devrait même plus être un mot aujourd'hui qu'on utilise. Et quand vous l'entendez, est-ce que vous dites à l'autre, ben voyons, comment tu parles? Est-ce que vous faites l'espèce de sans dire une leçon, mais c'est un peu ça. Est-ce que vous réagissez en disant ça? On doit plus dire ça. Ça, c'est un exemple, bien sûr, de langage, de vocabulaire. Parce que je pense que le lexique, les mots utilisés sont vraiment importants. Et puis, je vais en discuter avec ma prochaine invitée que je vous présente tout de suite parce que j'ai eu l'occasion de la voir hier. J'ai attrapé ça à la télé. J'étais invitée à Deux hommes en or, puis je l'ai trouvée fabuleuse. Je trouvais que c'était un modèle inspirant pour plein de femmes trans. Elle est avec nous, Chris Bergeron. Bonjour.
Bonjour, c'est gentil.
Vous venez de publier, Chris, Valide. C'est un roman autobiographique de science-fiction. Merci, je viens de le recevoir. T'es encore tout chaud. Alors, vous comprendrez que j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai lu les premières pages et je peux pas m'empêcher de lire à travers cette fiction autobiographique un peu de votre histoire. Et ça le dit, de toute façon, vous dites roman autobiographique. Oui. Parce que ça commence ainsi, ça dit, mon cher David, David étant... un algorithme, c'est bien ça, hein? C'est
de la exactement, une sorte d'Alexa, mais sur les stéroïdes, et un peu méchante.
Voilà, vous dites, il est grand temps que tu saches que je n'existe pas, enfin je n'existe plus, ou disons pas plus que toi. Toi, tu n'es rien par rapport à ce que tu seras demain. Moi, je ne suis rien par rapport à ce que j'ai été. Nous sommes des fictions qui ne sont pas écrites de notre main. J'ai trouvé ça, c'est intéressant que vous commenciez comme ça, de dire « je suis rien par rapport à ce que j'ai été », parce que vous avez déjà été autre chose que ce que vous êtes aujourd'hui, Chris.
Exactement, j'ai vécu longtemps dans la peau d'un homme, et j'ai fait mon coming out très tardivement, en fait. J'ai commencé ma transition, j'avais 40 ans, donc c'est sûr que je sais ce que c'est que de perdre un certain nombre de privilèges masculins, et puis je sais ce que c'est, évidemment, d'entendre tous les commentaires dont vous parliez il y a quelques minutes, des blagues contre les personnes trans, en effet, le mot FIF, ce genre de choses. Et quand on fait son coming out, quand on décide d'être nous-mêmes, on se rend compte que finalement, le système, la société n'est pas si ouverte que ça. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter à travers, je dirais, une fable de science-fiction, parce que c'est finalement une femme qui se bat comme une sorte contre une intelligence artificielle, contre un robot. Mais c'était pour dire, c'est un petit peu ça le sentiment. On a souvent l'impression d'être isolé quand on est trans et que le système ne nous comprend pas. Et c'est bien dommage.
Oui, voilà. Puis je trouve ça intéressant, cette analogie avec le fait d'être obligé de valider, hein, quand on parle à un algorithme.
Voilà.
Parce que aussi, quand on change de genre, j'imagine qu'il y a tout le processus de validation. Est-ce que c'est important? Cette validation sociale, j'imagine, ça doit être au cœur de votre quête.
C'est important parce qu'en plus, c'est lié à la sécurité. Donc, on cherche des endroits où on est en sécurité, où on ne va pas recevoir de regards haineux, de mots haineux, ou même pire, hein, parce qu'il y a pour certaines personnes aussi de la violence physique. Donc toute notre expérience de la vie passe par le regard des autres. en permanence quand on est trans. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend, je pense. Tout le monde fait attention au regard des autres. Ouais. C'est juste beaucoup plus fort dans nos vies à nous parce qu'il y a un petit élément de danger, il y a un petit élément de rejet. Oui, des fois, on fait peur aux gens. C'est bizarre parce qu'on n'est pas des loups-garous, mais on les déstabilise. Et c'est ça qui est triste, c'est que ça se traduit des fois par la haine. Alors oui, on cherche à être validé. C'est dur d'échapper à ça.
Ouais. Comment peut-on expliquer qu'il y a encore de l'homophobie aujourd'hui, de la transphobie?
Ben, je pense que c'est de l'ignorance. On parle beaucoup de mimes hein, dans les réseaux sociaux, de mèmes, d'idées qui se répètent. Ben, ça, ce sont des idées qui se répètent dans la société. Mm. C'est lié à une histoire de machisme, peut-être. C'est lié à une certaine vision de la masculinité qui ne permet pas beaucoup de variation. Heureusement, les choses changent, mais c'est pas de manière uniforme, c'est pas dans tous les milieux. Mais les raisons profondes, pourquoi est-ce que les gens ont peur ou se sentent challengés par des personnes LGBT+,
C'est ça, moi, que je trouve un peu absurde et que j'essaie de mettre le doigt dessus, c'est qu'est-ce qui fait... Mais c'est un peu comme n'importe quelle phobie, j'ai l'impression, je suis en train de faire une série sur la grossophobie, on essaye de voir qu'est-ce qui fait que les personnes grosses dérangent à ce point-là, parce que ça dérange aussi. C'est comme si on avait ce besoin d'être formaté. En même temps, on n'arrête pas de nous dire non, la différence est importante. On veut pas être des robots qui se ressemblent tous. Je veux dire, c'est le contraire de l'humain qui pense et qui est unique. Donc, il y a quelque chose d'incohérent là-dedans.
Ben, on vit dans une société qui nous formate le travail. Il y a un uniforme au travail, il y a un uniforme à l'école, il y a l'uniforme des modes. Les réseaux sociaux amplifient les mêmes codes encore et encore et encore. Ce qui fait que oui, on vit dans une société de formatage qui, en même temps, envoie un message de liberté absolue. C'est ça qui est drôle.
Ouais.
C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de liberté que maintenant, mais en même temps, il y a quand même énormément de formatage, de répétition de modèles à travers les images. On est dans une société d'images. Alors, c'est pour ça que c'est important que la représentation dans les médias, dans la publicité, dans la culture, soit au rendez-vous. Mm. Parce que c'est comme ça que les esprits vont changer. C'est à force de voir des gens qui parlent, les gens vont se dire « Ah ben, j'ai entendu une personne trans, puis ça a du... » Ça a du sens, ce qu'elle dit finalement.
Voilà. Chris Bergeron, comment vous l'expliquez? Est-ce que les gens vous posent des questions, par exemple? Parce qu'avant, vous étiez Christophe Bergeron, vous avez été rédacteur en chef, entre autres, de la revue Voir. Je nomme ça parce que tout le monde connaît cette revue. Bon, vous êtes devenue Chris Bergeron, une femme trans. Il y a ce livre valide que vous venez de publier, mais vous êtes aussi vice-présidente chez Cossette, une grande firme de publicité. Est-ce que le fait d'avoir ce poste important fait en sorte que c'est plus facile? Est-ce qu'on vous valide plus parce que vous avez un poste important dans la société, vous diriez?
Ça me permet, j'imagine, de faire valider plus de personnes trans. C'est-à-dire que dès que j'arrive dans un meeting, et moi je parle en tant que VP, je parle à d'autres VP, je parle à des dirigeants d'entreprise et puis toutes les grandes entreprises du Québec, là, beaucoup passent par Cossette. Donc, j'ai accès à une tribune qui me permet de normaliser la personne trans. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un meeting, il y a peut-être une petite surprise au début de la part de mes interlocuteurs, et puis après, ils se rendent compte qu'ils sont dans un meeting totalement normal, avec une personne normale qui comprend leur enjeu et puis qui peut parler de leurs objectifs d'affaires. Donc, cette idée de normaliser, c'est important. Donc, pour moi, c'est une tribune au quotidien, à travers, je dirais, de groupes de 5 à 10 personnes tous les jours. C'est une façon aussi d'essayer d'influencer les images qu'on envoie dans les médias vers quelque chose où il y a plus de diversité, pas juste pour les personnes trans, mais pour toutes les minorités. Donc aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à ça. J'aimerais d'ailleurs en faire ma spécialité dans les mois qui viennent, de vraiment réfléchir à la place de la diversité dans la publicité. Donc moi, j'utilise mon emploi, oui, en effet, comme une tribune. Et puis je pense que c'est important d'envoyer dans les médias des images de et ben là, on est à la radio, mais des histoires de personnes trans qui ont réussi. Parce que très souvent, dans les familles, les parents ont peur que si leurs enfants sont trans, ils vont vivre une vie de marginalité. Or, c'est pas vrai. On peut être trans et vice-présidente, on peut être trans et autrice, on peut être trans et on en voit de plus en plus aujourd'hui des succès. Il y a une dame là, Madame Robichaud, qui vient de gagner au Mercurial un prix jeune femme d'affaires la semaine dernière, et c'est une personne trans. Donc vraiment, c'est les choses sont en train de changer, heureusement dans le bon sens, mais c'est peut-être aussi parce que beaucoup de personnes trans qui réussissent entre guillemets se donnent cette responsabilité là de faire un petit peu d'éducation. Mm-hmm. On nous demande toujours d'expliquer qui on est, et c'est vrai que moi,
est-ce que ça vous ennuie ça?
Ben, des fois, ça peut fatiguer, parce que c'est très, très drôle. Hein. Ça m'arrive que la deuxième ou la troisième question qu'on me pose, c'est est-ce que je me suis fait opérer? Qu'est-ce que j'ai dans mes pantalons? Ce qui est quand même très, très particulier comme question. C'est pas très poli de demander ça aux gens.
Heureusement, je voulais pas demander.
Mais non, ben oui.
Ça ben, m'est pas voilà. venu, je vous avoue. Non, ça m'est pas venu. Non,
moi, les gens posent des questions très personnelles.
Très personnelles, sincèrement. Tout à fait. Et sincèrement, avant même, en préparant cette entrevue avec vous, Chris Bergeron, je me disais même, parce que c'est important le lexique. Je disais que tout à l'heure que les mots utilisés sont importants. Est-ce qu'on dit femme trans? Là, vous venez, je vous entends, puis vous dites personne trans. Comment on doit parler des trans?
Je dis personne trans parce qu'il y a des femmes trans, il y a des hommes trans, et puis il y a des personnes non binaires. Donc, c'est important d'inclure tout le monde. Ouais. C'est pour ça. Là, je parle généralement. C'est sûr que quand je parle de mon cas, ben oui, c'est le cas d'une femme trans. C'est-à-dire pas quelqu'un qui avant était un homme et devenu une femme, mais quelqu'un qui était toujours une femme, mais qui a un autre type de femme et qui essaye par des moyens médicaux de changer un petit peu cette situation. Voilà.
Donc, mais ça sous-entend forcément que vous êtes un peu porte-parole du dossier parce qu'on pourrait simplement dire femme.
Ben, ça serait beau, oui. Ça serait beau. La raison pour laquelle aujourd'hui il faut encore, je pense, dire femme trans, c'est que les personnes trans, femmes ou hommes trans, n'ont pas encore, je trouve, l'égalité des chances. Moi, j'ai énormément de chance d'avoir une carrière, de pouvoir écrire un livre et d'autres qui viendront après. Moi, j'ai de la chance, mais pourquoi? Parce que j'ai fait ma transition si tard, parce que j'ai fait ma transition à 40 ans et j'avais déjà été rédac-chef d'un journal. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très, très dur de dire c'est une personne qui a dirigé un grand magazine pendant 5 ans et complètement incompétente. Donc, moi, j'ai bâti ma carrière sur une forme de lâcheté, sur mes acquis masculins. J'ai attendu très tard parce que je me cachais, parce que j'avais peur de perdre ma carrière, j'avais peur de ne pas avancer si je faisais mon coming out. C'est pour ça qu'il faut encore utiliser, je pense, ces mots de femme trans, parce qu'il y a encore trop de femmes trans qui ont peur, qui se cachent, qui ont peur de payer le prix de leur différence.
C'est incroyable. Puis vous avez parlé du milieu du travail. Vous dites que je suis chanceuse et tout, mais je lisais dans un article de Châtelaine publié là, dans la foulée de la publication de votre livre Valide, et vous racontez qu'au début de votre transition, il y a des clients de l'agence qui ont quand même exigé votre congédiement.
Alors, c'était pas Cossette, je le précise, parce que j'ai trouvé chez Cossette une agence qui m'appuie et justement qui est pour moi ce qu'on appelle un safe space. Mais oui, j'ai eu chez mes anciens employeurs, en effet, il y a eu un client européen qui a demandé mon expulsion de l'agence, en effet. Oui. Juste parce que je m'étais pointé à habiller en femme, enfin, normalement pour moi, à un événement. Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, ben, c'était déjà il y a une dizaine d'années, mais ce qui s'est passé, pas 10 ans, non moins que ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils m'ont tabletté, en fait.
Ils sont assurés qu'on ne vous voyait plus.
Voilà, exactement. Même si j'avais participé à remporter ce contrat, qui était un contrat important avec une très, 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 très grande marque de montres suisse. Et je ne vais pas leur faire de la pub, donc je ne dis pas qui. Je n'ai pas envie de me faire traîner en cours en plus. Donc voilà, c'est la réalité, ça arrive.
Donc vous êtes parti ou vous avez dit...
Ah ben là on rentre dans des trucs. Non, j'ai été, on m'a tassé. J'ai été
viré
de cette agence-là. Oui.
Ah ouais. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses. Ça aussi, c'est de la violence.
Oui, mais ça, c'était il y a, c'est une forme de violence, mais c'était il y a quelques années.
Aujourd'hui, ça se verrait plus?
Oh, je crois que ça se voit encore dans certains domaines. Je pense que dans mon industrie, ça se voit moins. Je pense que évidemment, dans des domaines peut-être, on le sait que ostraciser la différence, ça existe. On le voit dans les articles tous les jours, surtout par exemple dans des secteurs manufacturiers et tout ça. Donc on le sait ça. Donc c'est sûr que ça arrive encore. Bien sûr que ça arrive encore. Mais moi, ça ne m'arrive plus. Peut-être parce que j'ai aussi une certaine notoriété.
Voilà, et que vous prenez la parole. Voilà. Chris Bergeron, vous restez avec nous encore quelques minutes. On va s'arrêter ici. Je suis en compagnie de Chris Bergeron. Elle est vice-présidente chez Cossette, une grande firme de publicité. Elle vient de publier le livre Valide, un roman autobiographique de science-fiction. Un magnifique livre en plus. Vous ne pouvez pas le manquer dans les librairies. Il est rose sur fond noir. C'est vraiment un très bel objet. Et en plus, c'est une belle écriture. On va s'arrêter ici, très courte pause. Donc, on va revenir avec vos commentaires. J'aimerais vraiment, on se parle franchement, vous et moi, vous me connaissez. J'aimerais ça que vous me disiez, avez-vous été témoin dernièrement ou il y a quelque temps de comportements homophobes? Puis idéalement, là, j'aimerais que vous me disiez quelle a été votre réaction. Peut-être avez-vous hésité à intervenir, peut-être vous avez rien dit, peut-être avez-vous dit quelque chose, genre « Hey, voyons donc, pourquoi tu dis ce mot-là? » On entend toutes les sortes. Surtout les gars dans les vestiaires, là, je suis sûre que vous en avez entendu. Et en chum, on dit, c'est l'équivalent de dire aussi, vous savez, la fameuse expression, garde, il court comme une fille. Assez dénigrant quand même. Bref, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont de la communauté LGBTQ, ben dites-moi si effectivement vous trouvez qu'il y a une augmentation des violences chez nous aussi, au Québec, envers votre communauté. 514-790-9850, 1-866-790-9850. La main, et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et on se prend la main, et on se prend la main. 514-790-9850 pour nous joindre. Vous faites également de l'extérieur de la région de Montréal le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez déjà été témoin de comportements homophobes. Ça peut être d'un proche, d'un chum. Est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce que vous avez, vous-même, si vous êtes membre de la communauté LGBTQ+, n'hésitez pas à m'appeler pour me dire si vous avez vécu ce genre de choses. Nous avons avec nous, justement, il écoute l'émission et l'entrevue que je viens de réaliser avec Chris Bergeron, vice-présidente chez Cossette, et Éric Deschenaux nous appelle, il nous écoutait, ça vous dit sans doute quelque chose. Il a été maire d'une municipalité qui fait partie de la MRC de Nicolette Yamaska, et il a dû démissionner de son poste de maire parce qu'il a été victime de propos homophobes sur les réseaux sociaux. Bonjour Éric.
Bonjour Madame Maréchal, bonjour Madame Bergeron.
Chris est toujours là. Oui, ça va bien, on vous écoute. Vous entendiez notre discussion avec Chris et vous vous êtes dit, il faut absolument que j'appelle pour parler de mon histoire. Rappelez-nous un peu, Éric Deschenaux, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ben moi, j'ai été élu en 2017, ouvertement gay, marié. J'ai été élu avec une bonne majorité. Bien sûr, on fait toujours peur, comme on parlait tantôt, l'inconnu, au courant de mon mandat, il a commencé à avoir aussi la super intimidation. Et en décembre, le paroxysme a atteint. Bien sûr que la COVID n'a pas aidé non plus, parce que les gens derrière un ordinateur peuvent se permettre plus. Et là, j'ai réellement reçu des propos homophobes, attaquer réellement ma personnalité, ma personne. Et c'était la goutte. Et en étant très impliqué quand même dans LGBTQ2+, c'était mon devoir quand même de parler et de dire que il faut dénoncer. Et qu'en 2021, le 17 mai est une journée importante, est une journée pour faire avancer les choses. Et je me dois de dire oui, ça existe encore, la transphobie aussi, mais on se doit en tant que société, si on veut une société inclusive, ouverte sur le monde, mais on doit avoir des 17 mai. Et on doit avoir des gens comme Mme Bergeron qui, justement, fait évoluer les choses.
Oui, exactement. Donc, vous avez été surpris de ces commentaires ou ça fait partie de votre quotidien, Éric?
Non, moi, j'ai été très surpris parce que, étant ouvertement gay, les gens m'ont élu avec mon conjoint. On est ensemble depuis 20 années. Mais on dirait que la COVID, la cyber-intimidation a pris un autre degré. Et on le voit beaucoup dans les propos homophobes et transphobes aussi, au niveau de la transphobie, qu'on voit que ça a comme augmenté. Le degré a augmenté dans les dernières années. Et c'est là d'où l'importance de, comme vous faites, Mme Maréchal, d'en parler, justement pour dire, puis on doit léguer quelque chose aux prochaines générations, tu sais, on n'en parle plus un jour, j'aimerais ne plus avoir de 17 mai.
Exactement, mais il faut aussi dire qu'être transphobe et être homophobe, c'est pas beau.
Non, non, puis la beauté de la chose, c'est la différence dans la diversité dans notre société. Et je me vois mal de rester chez moi, même si je ne suis plus un élu, mais de rester chez moi et dire, bon, OK, j'ai subi ça, j'en parle pas. Non, c'est pas dans mon trait de caractère. Puis c'est vraiment, on a des places publiques pour le dénoncer, puis dire, oui, il y a de la place, oui, il y a de la place à la diversité. Il faut arrêter ça, il faut vivre inclusif.
Bien, merci d'avoir pris le temps de nous appeler sur la route. Éric Deschenaux, donc, qui a démissionné de son père, son rôle de maire, pardon, petite municipalité de, on va la nommer, Pierreville, dans la MRC de Nicolette Yamaska. On a Stéphanie qui est avec nous. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour.
Avez-vous été témoin, vous?
Ben moi, non, mais moi, ce que je dis à votre chercheur, je pense que j'ai un petit message d'espoir parce qu'il y a 2 ans, on est chez des amis et au retour, mon garçon qui, à l'époque, avait 10 ans, me dit, il dit, « Maman, tu sais, Noah, puis il y avait beaucoup de gens, c'était avant le COVID, beaucoup d'enfants, il me dit, tu sais, Noah, il dit, avant, c'était Amélie. » Fait que je dis, « OK. » Fait qu'il dit, « Oui, il dit, lui, il s'est levé un matin, puis il a dit, « Maman, tu me coupes les cheveux, je veux plus être une fille. » Puis il était jeune, là, il avait en bas de 10 ans. Et là, je regarde mon fils, puis je lui dis, ben, tu sais, je sais que ça peut avoir l'air drôle, mais en même temps. Et là, tout de suite, il me reprend et il dit, non, maman, c'est pas drôle. Et là, je me suis sentie mal parce que mon intention était pas du tout de dire, c'est drôle dans le sens de rire. Je voulais dire, c'est spécial, c'est particulier. Et je trouvais ça beau parce que les enfants, ils ont pas cette notion-là. C'est une fille avant, c'est devenu un garçon, that's okay, c'est parfait. Et je trouve ça tellement beau, je me dis, mon Dieu, il y a de l'espoir.
Tout à fait. C'est un beau message de bienveillance. Puis, puis je pense que vous, comme maman, on le sent, là, vous avez essayé d'être bienveillante aussi dans la réaction avec votre fils, mais vous avez raison, puis tant mieux. Mais c'est vrai que les jeunes sont des buvards. Puis tant qu'on leur dit pas des gros mots qui vont les marquer, ils les connaissent pas. Donc, il faut justement avoir de l'empathie, il faut avoir de la bienveillance, il faut avoir de la gratitude, du respect, de l'ouverture à la diversité, mais à toutes des idées qui sont positives, parce que c'est comme ça qu'on va faire des beaux citoyens qui vont être engagés dans leur communauté puis qui vont pas avoir de parti pris, de biais négatifs. En tout cas, ça a l'air bien intellectuel comme affaire, mais dans le fond, c'est de dire... On dit pas certains mots parce qu'il y a des mots qui font mal.
Effectivement.
Aussi. Merci beaucoup, Stéphanie.
Un grand plaisir.
Je voudrais vous présenter Patrice Lavoie. Vous le connaissez, il a déjà été porte-parole de l'Auto-Québec. Patrice est avec nous aujourd'hui parce qu'il a fait un statut Facebook, justement, cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je trouvais intéressant de lui parler. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Isabelle. Comment vas-tu?
Ben, ça va très bien. Chris Bergeron est avec nous aussi.
Bonjour.
Bonjour, Chris.
Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà.
On se connaît un peu.
Bon. Rappelle-nous un peu ton mot.
J'admire beaucoup.
Parce que tu dis, je vais lire en gros là, ton message, tu parles avec quelqu'un que tu as connu il y a 25 ans et qui a été très dénigrant à ton endroit à l'époque, qui a porté des jugements, qui était homophobe, clairement. Rappelle-nous un peu là, donc, la situation.
Ben oui, écoutez, c'est comme bien d'autres gens qui ont vécu la même situation, le primaire, le secondaire, les enfants à l'époque. Oui, les enfants s'améliorent, ça, je suis bien content de ça. On a entendu le témoignage de la mère, mais à l'époque, c'est sûr que c'était très tous les jours pendant le secondaire, cette personne-là me traitait de nom. J'ai été traité de tapette là, pas mal plus de fois qu'à mon tour. Et bon, le secondaire fini, on grandit, on devient adulte, on move on, comme on dit, on pense plus trop à ça. Mais en raison de mon implication à l'Auto-Québec et que je suis devenu une figure publique, je recevais parfois des petits messages message de cette personne-là. « Allô, comment vas-tu? » Et là, je sentais qu'il y avait comme une volonté de renouer avec moi. Moi, j'étais comme « Bon, ben, je suis pas certain si ça me tente. » Et à un moment donné, je lui ai carrément, c'est l'échange que j'ai partagé hier, je lui ai carrément ouvert la porte en disant « C'est drôle quand tu me parles, ça me ramène en même l'expérience qu'on a vécue ensemble, les propos que tu as tenus à mon égard. » Et là, tu voyais qu'il sentait le besoin de s'excuser en long et en large, un message très senti, très lucide.
Oui, vraiment, j'ai trouvé ça parfait.
Oui. La part de quelqu'un qui avouait qu'il avait été, qu'il avait manqué de jugement, qui était un peu fermé d'esprit. Il dit, mes enfants vivront pas, feront pas les mêmes erreurs que moi. Donc, très porté vers le futur également. Puis ça m'a touché. Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, je pense que ça pourrait aider les gens qui vivent encore avec des blessures liées à l'homophobie. Tu sais, de voir que parfois, le bourreau ou les gens qui t'ont fait de la peine dans le passé, parfois, eux autres aussi évoluent. C'est beau de voir que les gens changent de mentalité. J'aurais jamais cru que cette personne-là allait être... Il était homophobe, pas à peu près, là, mais bon.
Je trouve ça vraiment bien. Puis la personne a dit, d'accord, si ça peut faire en sorte de corriger ce qui ne s'efface pas, il n'y a aucun problème. Oui. Puis ouais, vraiment, j'ai trouvé que c'est très positif. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup.
Puis merci d'en parler aujourd'hui, parce que oui, ça s'est amélioré, mais il y a encore de grands, grands pas à faire. Donc, merci de continuer à en parler.
Ben oui, beaucoup de gens m'écrivent d'ailleurs là-dessus. C'est toujours, on voit là, que c'est difficile parfois d'appeler et puis de le dire, mais il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ+, qui me disent pas facile, effectivement. Il y a encore beaucoup de violence verbale, mais la violence verbale, ça fait mal quand même. Chris Bergeron, le mot de la fin.
Beaucoup de violence, mais quand même un petit peu d'espoir. Il y a de plus en plus de gens. D'abord, nous, on a de plus en plus le courage de parler.
Ouais.
Et ça, c'est bien. Il y a plus de tribunes. Donc, merci de m'avoir invité et d'avoir partagé tous ces commentaires qu'on vient d'entendre. Mais il y a aussi plus de gens qui nous défendent. Maintenant, les lois sont derrière nous. Maintenant, il y a des entreprises qui nous défendent. Maintenant, il y a des organismes qui nous défendent. Et ça, moi, ça me donne espoir quand même.
Voilà.
Il y a peut-être un dernier soubresaut de la haine, mais je pense que c'est juste un dernier soubresaut.
Voilà, puis on sait ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Malheureusement, parfois, ça a vraiment l'air d'être la destruction massive. Alors, il faut prendre du recul par rapport à ça comme société, comme humain. Merci beaucoup, Chris Bergeron.
Merci à vous.
Je rappelle son livre, Valide, roman autobiographique de science-fiction. Très hâte de lire ça. Et bien sûr, on s'arrête ici. Très courte pause. J'ai lu quelque chose de bien intéressant ce matin, comme quoi les Québécois jardinent plus que jamais et même qu'on aurait de plus en plus le pouce vert. Fait qu'on va faire un petit peu de millage là-dessus. Je vous en ai parlé vendredi. Je vous disais, allez-vous vous mettre les deux mains dans la terre en fin de semaine? Sans doute l'avez-vous fait. Faisait tellement beau. Mon Dieu, moi, je l'ai fait. Ça m'a permis de décrocher. J'ai hâte de vous parler de ça tout de suite après la pause puis d'avoir vos commentaires là-dessus. À tout de suite.